Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Chaque semaine, je vous partage un épisode avec un invité inspiré et inspirant qui a pris le pouvoir de sa vie pour nous aider à y parvenir à notre tour. Et cette semaine, j'accueille Hugo Clément. Vous l'avez sûrement déjà vu passer, que ce soit derrière l'écran de votre téléphone ou de votre télé, car Hugo est journaliste, et plus particulièrement, journaliste engagé. Car Hugo remet en question l'image du journaliste purement objectif, une personne ayant par essence des opinions, on ne peut se persuader que le journalisme est objectif, même quand il se veut comme tel. Alors Hugo a décidé d'assumer ses opinions, haut et fort, pour faire bouger les choses. Il fait du journalisme d'enquête un outil pour éveiller les consciences sur les grands enjeux de notre siècle, la protection de l'environnement et de la biodiversité. Comment ses engagements sont nés? Quels sont ses outils d'action au quotidien? Quelle est sa vision du militantisme? Et quel message il a envie de faire passer à la génération passée, présente et future? Ce sont tous les sujets que l'on aborde dans cet épisode d'InPower. Si c'est la première fois que vous écoutez InPower, déjà, bienvenue! Et vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast en cliquant sur le bouton « S'abonner » de l'application que vous êtes en train d'utiliser pour recevoir les prochains épisodes. Et si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à partager un post ou une story sur Instagram en nous taguant @hugoclementk et @mybetterself pour que l'on puisse le voir et échanger avec vous. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Hugo Clément. Bonjour Hugo.
Bonjour.
Bienvenue sur InPower.
Merci.
Je suis ravie de t'accueillir dans tes bureaux, c'est bon, on peut le dire.
It's
not a secret.
Non, c'est pas un secret.
Génial.
Ce sont mes bureaux, enfin ceux de mon équipe.
Bah écoute, avant d'en arriver à comment tu as constitué cette équipe, est-ce que tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites?
Je m'appelle Hugo, j'ai 31 ans, je suis journaliste. Je présente une émission qui s'appelle Sur le front sur France 5, consacrée à l'environnement et aux gens qui se battent pour défendre le vivant. Et je fais aussi du contenu pour les réseaux sociaux. Et puis, j'ai monté une société de production avec un ami qui s'appelle Régis Lamanna-Roda. Et on coproduit notamment l'émission On est en direct de Laurent Ruquier et Léa Salamé le samedi soir sur France 2. Et d'autres types de contenus qu'on fait aussi. Voilà. Et le plus important, je suis papa de deux petites filles. La grande a 11 ans, elle s'appelle Ava. Et la petite a 1 an et demi. Et elle s'appelle Jim. Voilà.
Trop cool.
Et la maman, c'est Alexandra, ma femme.
Ok, bah bravo déjà, c'est vrai qu'il faut quand même le préciser aussi. Est-ce que t'as toujours voulu être journaliste? Je me suis demandé ça parce que de ton parcours, de ce que je connais, t'es entrée direct dans le journalisme. Mais peut-être qu'il y a une case que je n'ai pas, comme j'essaye de faire peu de recherches sur mes invités pour, tu vois, avoir la vraie curiosité. Dis-nous tout.
Non, ouais, j'ai directement commencé dans le journalisme après mes études. J'ai même fait une école de journalisme, ce qui montrait bien que je voulais être journaliste. Après, c'est arrivé assez tard, c'est-à-dire que c'est pas une vocation d'enfant, c'est arrivé après le bac, quoi, au début des études supérieures. C'était une époque où il y avait beaucoup de mouvements sociaux, donc il y avait beaucoup de manifestations étudiantes, etc. Et j'y participais. Et c'est la première fois que j'étais confronté aux journalistes sur le terrain, que j'ai vu des journalistes travailler. Et je trouvais ce métier assez fascinant d'être plongé dans le bain de l'actualité comme ça. Et au début, je pense que j'ai un peu voulu faire ce métier très égoïstement pour vivre des aventures, voyager, être un peu dans l'action. Je pense que c'était vraiment la motivation première. C'était pas pour sauver la démocratie ou je ne sais quoi, c'était vraiment
la
un truc,
beauté du métier.
C'était pas du tout pour la beauté du métier, on va dire, et son importance sociale, c'était vraiment plus pour l'aventure et parce que j'avais l'impression que c'était vraiment super cool d'être journaliste, et je le pense toujours.
Ouais, bah, de toute façon, je pense que quel que soit le métier, même s'il a une beauté sociale ou enfin d'engagement, même ça nourrit au final quelque chose de très personnel, donc faut pas avoir honte de choisir un métier égoïstement, j'ai envie de dire, parce
ouais,
que
bah, c'est
clair,
souvent ça, de toute façon, le moteur de l'engagement. Ouais. Alors, j'ai l'impression quand même qu'aujourd'hui, les plus jeunes générations, elles sont portées par d'autres moteurs, quoi. Et le besoin d'avoir un métier qui fait sens, qui a une utilité et qui apporte quelque chose, notamment dans le combat pour l'environnement, est quand même, j'ai l'impression, beaucoup plus présent aujourd'hui que c'était le cas pour moi, pour ma génération, il y a 10-15 ans, où même si on parlait déjà beaucoup d'environnement, c'était quand même pas aussi présent qu'aujourd'hui, quoi. C'était pas une thématique aussi incontournable, et donc ça nous toucher peut-être moins que les plus jeunes aujourd'hui.
Ouais, parce que quand t'as commencé dans le journalisme, il n'y avait pas cette notion d'engagement encore. C'était plus couverture de l'actualité.
Alors, quand
sans domaine spécifique.
Ouais, moi j'ai commencé vraiment à France. Enfin, j'ai fait plein de stages et plein de ce qu'on appelle des piges, donc un peu de l'intermittence où t'es payé à l'article. Et donc j'ai travaillé en presse locale, à la Dépêche du Midi parce que j'étais à Toulouse, au Parisien, ensuite j'ai fait des stages à TF1, etc. Mais mon vrai premier boulot où j'ai vraiment été embauché à la sortie d'école de journalisme, c'est France 2, où j'ai rejoint le service qui s'appelait d'ailleurs toujours, je pense, le service des informations générales. Donc comme son nom l'indique, c'est un peu toute l'actualité, notamment ce qui se passe à l'étranger, les conflits, les faits divers, etc. Donc ouais, j'ai commencé dans un journalisme très général, enfin très actu, très news. Dans le métier, on dit c'est du news, en opposition à c'est du magazine, qui est sur un temps un peu plus long, ce que je fais aujourd'hui. Et l'actu chaude, on dit que c'est du... On utilise le mot news, voilà. Et donc j'ai commencé là-dedans.
Et tout de suite, t'as su que t'étais au bon endroit. Il n'y a aucun moment où tu t'es dit, je suis pas sûre que ce soit... même ne serait-ce que... Enfin, je sais que je voulais être journaliste aussi quand j'ai commencé mes études. Et il y a ce truc... Pourquoi tu l'as pas fait ? J'aime à dire que je suis un peu en train de le faire.
Ah oui, c'est vrai, là, c'est du journalisme ce que tu fais.
C'est du journalisme. C'est plus que la vie a fait que j'ai développé mes projets à côté, tu en parles de mes études, et que ce qui est cool sur les réseaux sociaux, c'est que en fait, t'as pas à t'enfermer dans un seul domaine, et du coup, je peux toucher à tout ce dont j'ai envie de toucher, donc cette liberté-là m'a vachement plu, mais je pense qu'inconsciemment, et c'est ce que j'allais dire, c'est que on m'a tellement répété que ça ne servait à rien que je sois journaliste parce que le métier allait mourir et que, enfin, en plus je voulais journaliste presse écrite, tu vois.
Donc, on le dit depuis toujours, il est toujours pas mort.
Ouais, c'est clair. Mais du coup, je pense qu'il y avait un côté, tu vois, où je me suis dit, ok, il faut que je trouve un plan B parce que là, le plan A, tout le monde me dit que c'est un peu foutu. D'accord. Et c'est vrai, quand t'as 18 ans, t'es quand même assez influencé parce qu'on peut te dire autour de toi. Donc, je pense que là, je renoue avec ça pour en l'ayant mis de côté pas mal de temps. Après, je sors tout juste de mes études. Donc, qui sait, peut-être que dans 10 ans, je serai journaliste presse écrite. Mais c'est, toi, t'as pas eu ce truc de la peur que les autres pouvaient projeter sur le métier?
Non, pas du tout.
Qui t'a fait dire que c'était foutu?
Non, pas du tout. Parce que c'est vrai que depuis que je suis en école de journalisme, donc ça fait plus de 10 ans, on entendait déjà ces discours-là de dire le journalisme, c'est mort, etc. Moi, ça m'a toujours attiré. J'ai toujours beaucoup regardé, beaucoup lu la presse, beaucoup regardé les informations, beaucoup écouté la radio. Et donc, j'avais vraiment envie de faire ça, quoi. J'avais vraiment envie d'être là où ça se passait, d'être au cœur de l'actualité. Et donc, j'ai jamais douté. Après, au fur et à mesure de mon début de carrière, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais de mon début de parcours carrément professionnel, j'ai toujours l'impression que ça fait assez vieux de parler de carrière.
C'est un mot assez pompeux.
Un peu pompeux. En tout cas, de début de parcours professionnel. J'ai pu ressentir de la frustration sur l'utilité du journalisme. Et c'est pour ça que j'ai fait les choix que j'ai fait et que j'ai changé d'ailleurs de manière de faire du journalisme, parce que j'avais l'impression qu'on faisait des reportages et que ça changeait pas forcément grand chose derrière, qu'il se passait pas grand chose, quoi, que tu pouvais aller faire un reportage sur la famine en Afrique. Tu rentrais, tu faisais ton sujet, il passait et puis derrière, rien ne changeait, quoi. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'essaie de faire du journalisme avec un impact derrière et de m'engager plus pour essayer de provoquer des changements, quoi, et de faire en sorte que l'information soit aussi mise au service du changement vers un monde que je souhaite meilleur et que j'espère meilleur, et notamment sur les questions d'environnement, de droits des animaux, de biodiversité, de climat. Je pense que c'est super important d'avoir un journalisme qui propose aussi des solutions, qui propose aussi aux gens des manières de s'engager, qui se contente pas simplement de dire voilà le problème et puis débrouillez-vous avec ce problème, mais qui dit voilà le problème, on a enquêté, voilà ce qu'on peut vous dire, et voilà aussi quel type de solution on peut mettre en œuvre et quel type de personnes il faut soutenir, quel type d'association vous pouvez soutenir si vous voulez agir sur ce sujet-là. Je pense que c'est un peu hypocrite de dire on est journaliste, il faut surtout pas s'engager, il faut rien dire, il faut se contenter de juste montrer et puis voilà, le reste c'est pas notre problème. Je pense que l'urgence aujourd'hui impose aussi un certain type de journalisme, et le journalisme engagé, c'est le mot tel que je le pratique aujourd'hui, c'est une des formes de journalisme, et je pense qu'elles sont complémentaires, toutes ces formes de journalisme. J'ai pas la prétention de faire le meilleur journalisme ou la meilleure manière de traiter l'information, mais je pense que c'est une des façons de parler de l'actualité, une des façons de proposer aux gens d'agir et de s'engager, et c'est complémentaire avec toutes les autres facettes de ce métier.
C'est vrai, parce qu'il y a vraiment cette image du journaliste qui doit rester objectif, et où je l'ai pas mal entendu, tu vois, où en fait c'est la déontologie, on se doit de pas prendre position, alors que c'est vrai que, enfin, qui a décrété ça, tu vois, dans les faits?
C'est surtout que
tu as le droit de prendre parti.
Oui, et puis c'est surtout que être objectif, ça n'existe pas. C'est quelque chose que beaucoup de journalistes mettent en avant pour se donner un peu bonne conscience, mais personne n'est objectif. Ça n'existe pas. On est tous et toutes, les journalistes y compris, des êtres humains qui sommes influencés par nos sensibilités, par notre histoire, nos expériences, ce qu'on a vécu, le milieu dans lequel on a grandi, les amis qu'on a fréquentés, les études qu'on a faites, bref. On est un ensemble de choses qui fait qu'on n'est pas objectif quand on regarde une situation et quand on est confronté à une situation. On va réagir en fonction de notre expérience. Et donc de prétendre que nous, les journalistes, on est capable de sortir de notre corps quelque part et puis d'avoir un regard complètement extérieur et complètement objectif sur une situation, c'est un peu mentir aux gens. Voilà. Mmh. Par contre, ce qui est vachement important, c'est de rester honnête. Et c'est deux choses différentes, l'honnêteté et l'objectivité. L'honnêteté, c'est de ne pas mentir, de ne pas modifier la réalité pour la faire coller à ce qu'on pense, de rapporter ce qu'on voit, d'être témoin, d'enquêter, de s'attacher à la réalité des faits. Ça, c'est fondamental et je pense que c'est la base du métier de journaliste, l'honnêteté. En revanche, l'objectivité, c'est-à-dire de prétendre qu'on n'est jamais influencé par ce qu'on est et par ce qu'on pense, ça, pour moi, c'est un mensonge. Et d'ailleurs, je pense que la plupart des gens n'y croient pas. Enfin, si on fait un sondage à la volée dans la rue, si vous demandez aux gens est-ce que selon vous les journalistes sont objectifs, bon, il n'y aura pas grand chose ou grand monde qui va vous répondre oui, parce que les gens savent bien que ce n'est pas possible. Et donc voilà, moi je prétends pas du tout être objectif. Par contre, j'assure et je m'attache à être le plus honnête possible et à être irréprochable sur les faits et sur la réalité.
Il y a quelque chose qui est assez particulier aussi dans ta carrière de journaliste, c'est que la plupart des journalistes, historiquement, dépendent de maisons, que ce soit des jeux de magazines, que ce soit des boîtes de production, que ce soit la télé. Toi, tu as commencé ton parcours du coup à la télé. Quand est-ce que tu t'es rendu compte qu'en fait, tu pouvais être journaliste indépendant et que le schéma ou l'image que tu avais de journaliste, tu pouvais un peu la redéfinir? Parce que avant toi, j'ai peu l'image, tu vois, de journalistes qui ont un peu ridé solo, qu'on fait leur projet et qui aujourd'hui, c'est eux qui montent leur propre boîte.
Il y en a pas mal en fait. Alors après, ça dépend ce qu'on entend par journaliste indépendant. Journaliste indépendant, c'est, enfin dans la définition la plus commune, c'est des journalistes qui sont qui n'ont pas d'employeur fixe et qui travaillent à la mission pour différents employeurs qui sont dans le métier, on dit pigiste. Voilà, c'est des gens qui travaillent à la mission, à l'article, au reportage, au documentaire. Donc moi, je travaille quand même pour un employeur fixe aujourd'hui. Voilà, c'est France Télévisions. Je travaille pour France 5. Mais je suis journaliste indépendant parce que j'ai monté ma propre boîte de production. Je fabrique moi-même les émissions avec mes équipes. Et on propose ces émissions à des diffuseurs, on vend ces émissions à des chaînes de télévision. Et donc le jour où ça ne nous convient plus, où je ne suis pas content des conditions dans lesquelles on me demande de fabriquer une émission, je peux décider d'arrêter et puis de la faire différemment pour d'autres personnes. Voilà, donc dans ce sens-là, je suis un journaliste indépendant. Et puis après, il y a l'indépendance vis-à-vis des autres pouvoirs. Et ça, c'est, je pense, le plus important. Mais on peut être un journaliste indépendant en étant dans une rédaction, la même rédaction toute sa vie. Voilà, on peut être indépendant du pouvoir politique, du pouvoir économique, tout en étant salarié d'une rédaction. C'est pas du tout contradictoire. Et je pense qu'il y a beaucoup de fantasmes qui circulent sur l'indépendance des journalistes. Beaucoup de gens pensent qu'un journaliste est forcément corrompu, est forcément victime de pression, répond forcément à des commandes qui viennent d'en haut. Il y a un peu de fantasme là-dessus. Je pense qu'en France, en tout cas, on a la chance d'être dans un pays où l'écrasante majorité des journalistes font leur métier librement et ne sont pas du tout soumis à des pressions ou à de la censure. Je dis pas que ça existe pas, hein, ça existe très probablement dans notre pays, il y a eu des exemples, mais c'est quand même relativement rare et même les journalistes qui sont salariés dans des rédactions peuvent travailler librement. Voilà.
Ouais, non, mais c'est vrai que c'est bien de le dire. Au final, il y a pas mal d'opacité autour de ce métier qui commence à changer grâce aux réseaux sociaux. Mais c'est vrai que comme la plupart, en effet, sont attachés à des émissions, à des boîtes de prod ou de télé, leur image, j'ai l'impression que leur parole est parfois un peu moins libre que...
Un média, c'est une entreprise. Donc ça, voilà, il faut que les gens le comprennent. À part le service public, qui est, comme son nom l'indique, un service public, qui est donc financé par l'État et qui dépend donc de l'impôt des citoyens et pas d'un groupe privé, la grande majorité des médias en France sont des médias privés. Donc ce sont des entreprises. Et comme toutes les entreprises, un média privé est un média qui est là pour gagner de l'argent. C'est pas sale de dire ça. C'est factuel. Ouais. C'est une entreprise. On peut pas reprocher à une entreprise de vouloir faire du bénéfice, grossir, embaucher plus de gens, etc. Donc forcément, les médias répondent à des logiques économiques. Pour produire de l'information, il faut la fabriquer. Pour fabriquer l'information, ça coûte cher. Il faut de l'argent. Et pour avoir de l'argent, il faut que cette information elle rapporte par ailleurs. soit avec la publicité, soit avec l'abonnement. C'est les deux modèles principaux aujourd'hui dans la presse. Donc moi, je pense qu'il ne faut pas du tout se boucher le nez et trouver ça sale que les médias gagnent de l'argent et soient des entreprises privées qui fassent du bénéfice. Après, évidemment, quand vous êtes un journaliste qui travaille pour un groupe privé en particulier, bah, vous n'allez pas mordre la main qui vous nourrit, et c'est normal, comme dans n'importe quelle entreprise. Si vous êtes cadre dans un grand groupe du BTP, vous n'allez pas aller dire sur les réseaux sociaux que ce grand groupe de BTP est pourri, est moisi, qu'il fait tel truc, etc. Bon, vous allez forcément faire attention à ce que vous dites parce que votre travail en dépend. Il ne faut pas être naïf non plus. Voilà, des journalistes qui travaillent pour un grand groupe privé qui possède autre chose en plus que le média, ça va être compliqué de faire des enquêtes ou de dire des choses sur le propriétaire qui possède le média. Et c'est pas si exceptionnel que ça de se dire ça, c'est juste logique. Ouais. Donc ce qui garantit en fait la liberté des journalistes, c'est la pluralité de l'information. C'est de faire en sorte que y ait plein de médias différents, que ces médias soient possédés par plein de gens différents, qu'il y ait des médias d'information publique qui soient libres de tout intérêt privé, qu'il y ait plein de médias privés différents qui, eux, sont libres de tout intérêt public, mais qui sont aussi libres les uns des autres, qui ne sont pas tous possédés par la même personne. Parce que là où ça commence à poser des problèmes, c'est quand il y a une concentration, c'est-à-dire quand c'est un grand groupe ou une grande famille qui possède énormément de médias. Là, on peut arriver à une situation où on rentre dans un problème d'indépendance et de liberté. En France, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de médias privés différents, et je pense... Je peux me tromper, hein. Peut-être qu'on me prouvera le contraire, mais je pense qu'il y a quand même une liberté des journalistes en France qui est réelle aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que dans certains médias en particulier, il n'y a pas des problèmes. Mais si on prend du recul et qu'on prend la situation globale, je pense que la presse est libre. Je pense que tous les citoyens et toutes les citoyennes peuvent trouver des médias qui leur correspondent, qu'il y a une telle offre, que ce soit sur Internet, à la télé, à la radio, que chaque citoyen peut trouver un média qu'il informe de la manière qu'il juge utile et convenable.
Non, mais c'est certain que dans tous les cas, si tu critiques ton employeur, c'est en ton âme et conscience et que ça peut avoir des répercussions. C'était plus sur le côté engagement, parce que, bah, tu vois, typique, je me demande si toi, au début, ton engagement environnemental n'a pas posé problème, mais tu vois, imaginons quelqu'un a une émission sur une chaîne, en effet, privée, et cette personne-là, sur les réseaux sociaux, commence à partager des engagements qui lui tiennent à cœur. J'ai l'impression qu'il y a quand même ce truc, bah ouais, mais vu que tu dépends de l'émission, tu la représentes, et t'es peut-être moins libre que ce que t'aimerais, tu vois. Après, je sais pas si tu l'as vécu.
Après, c'est vraiment des choix. C'est-à-dire que moi, à un moment, j'ai fait le choix de créer ma propre boîte et de faire mes propres émissions de mon côté, parce que je voulais être totalement libre de dire ce que je voulais sans que ça engage personne d'autre que moi. Voilà. Et c'est très important pour moi aujourd'hui, c'est d'être libre tout le temps, de pouvoir dire ce que je pense tout le temps, et de ne pas engager la responsabilité d'une émission, d'une autre entreprise, d'un média dans ce que je peux dire. Mais après, c'est des choix.
Ouais.
Tous les journalistes n'ont pas forcément envie d'être engagés publiquement sur des sujets. Il y a des journalistes qui ont juste envie de rapporter les faits et puis rien d'autre. Et c'est très bien. Et c'est très bien qu'il y ait des journalistes qui fassent que ça. C'est aussi très bien qu'il y ait des journalistes qui prennent position. Encore une fois, je pense que c'est la multiplicité de l'offre, la diversité de cette offre d'information qui est importante. Après, on peut ne pas aimer tel journaliste parce qu'il prend telle position. Moi, je sais qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas ce que je peux dire sur certains sujets. C'est pas grave, parce qu'ils vont trouver ailleurs ce qu'ils aiment pas chez moi. Et inversement. Donc, faut vraiment pas avoir peur de cette diversité. Faut vraiment pas avoir peur de désaccord, tant qu'il y a le choix. Et tant que tout le monde peut trouver un média qui lui convient.
Et tu t'es posé la question au moment où ton engagement s'est formé. Bon, j'imagine que ça s'est fait au fur et à mesure, mais d'en parler aussi ouvertement, de t'y consacrer. Parce que ça peut être difficile de se positionner comme le mec qui parle d'environnement, subir les critiques.
Je me suis posé la question, oui, mais en fait, on est tellement dans une situation d'urgence et on est tellement dans une situation d'accélération de la crise qu'on connaît et qu'on va connaître de plus en plus et que nos enfants vont connaître encore plus que nous, que je ne me la suis pas posée longtemps, cette question, que ça me tord tellement le bide que ça bouge aussi lentement, que les médias jusqu'à récemment fassent aussi peu pour l'environnement, parce que là c'est en train de changer, il faut le saluer, il y a plein de médias qui se mettent à faire des contenus sur l'environnement et c'est génial, mais pendant très longtemps c'était pas le cas. Et donc non, je n'ai pas beaucoup hésité, je me suis dit que c'est là-dessus que j'avais envie d'informer. Pour moi, c'est le plus gros enjeu de l'histoire de l'humanité aujourd'hui, c'est le plus gros enjeu qu'on a à gérer, c'est cette question de crise de l'environnement, de crise de la biodiversité et du climat. Et donc, voilà, faut y aller, quoi. En fait, on n'a pas le choix. Et si on continue à se demander ce que oui, on peut dire, prendre telle position sur tel sujet, je pense qu'on perd du temps. Et en fait, ce qui compte, c'est d'informer, de donner les clés aux gens pour qu'ils prennent les bonnes décisions. Et puis, à un moment donné, de pas avoir peur de se mobiliser et de militer même sur certaines questions qui sont des questions qui me paraissent essentielles aujourd'hui. Je pense pas que un journaliste doit simplement aujourd'hui dire il y a des gens qui pensent que le réchauffement climatique c'est à cause de l'homme et puis il y a des gens qui pensent que c'est pas à cause de l'homme. Chacun se fera son avis. Non, je pense que voilà, il faut à un moment prendre les consensus scientifiques. Il faut oser se positionner sur des sujets aussi fondamentaux, quoi.
Pourquoi tu penses que le mot militer fait aussi peur aujourd'hui?
Je sais pas, parce que c'est un mot plutôt noble, militer. Militer, c'est défendre ses idées, et c'est essayer de convaincre les gens qu'il faut changer, qu'il faut agir différemment. Donc je pense que le mot militer il fait peur parce qu'il est attaché à la politique, pas au sens noble du terme, au jeu politique. Il est associé aux gens qui militent pour un parti, pour un candidat, et qui défendront toujours un candidat, même si ce candidat dit des énormes conneries, même si le candidat fait n'importe quoi. Il y a ce côté, le mot milité est associé un peu à une sorte de secte où c'est des gens un peu fous furieux qui vont considérer qu'il y a que eux qui ont raison, que tous les autres sont des fous et que, enfin, sont des cons, pardon, et qui, voilà. C'est pour ça que le mot milité est un peu sali par ça. Mais en fait, par exemple, de militer pour l'environnement, enfin de militer pour qu'on prenne plus en considération les autres espèces, pour qu'on arrête de détruire des écosystèmes dont on dépend pour survivre, moi je trouve ça plutôt noble. Mmh. Et je pense qu'on n'a pas à avoir honte de ce mot de militantisme, d'activisme. C'est un beau mot, quoi. Et encore heureux qu'il y a des gens, depuis des décennies, qui militent pour le climat, pour la biodiversité, parce que s'ils n'avaient pas été là, je ne sais même pas où on en serait aujourd'hui, et on serait encore probablement beaucoup plus en retard que ce qu'on est déjà. C'est parce qu'il y a des gens qui ont pris la parole, parce qu'il y a des gens qui ont créé des associations, parce qu'il y a des gens, des scientifiques notamment, qui ont osé sortir de leurs réserves, qu'on commence aujourd'hui à prendre en compte cette question de l'environnement. On est très loin de ce qu'il faut faire, hein. Attention, hein, on est à des années-lumière de ce qu'il faudrait qu'on fasse pour éviter la catastrophe, mais ça commence à s'inviter dans le débat public, et c'est grâce aux gens qui ont milité pendant des années, parfois dans le vide, parfois dans le désert, qui étaient seuls contre tous, dont tout le monde se moquait. On peut prendre la question des animaux par exemple, la défense des animaux, le végétarisme, le fait de réduire sa consommation de viande, le fait de considérer les animaux d'élevage comme des êtres sensibles. Aujourd'hui ça paraît normal pour plein de gens, mais il y a encore 20-30 ans, ils étaient très très seuls, les gens qui défendaient ces choses-là. Les gens qui disaient il y a 30 ans qu'on ne peut pas enfermer un lion dans un camion de cirque toute l'année pour divertir les gens, tout le monde se moquait d'eux. Les gens qui disaient qu'il fallait arrêter de manger de la viande toutes les semaines parce que ça provoque des élevages intensifs qui sont une catastrophe, personne ne les écoutait. Aujourd'hui, ça a changé. On écoute ces gens-là, il y a de plus en plus de gens qui pensent pareil. C'est des thèmes qui sont légitimes dans le débat public, et c'est grâce au militantisme. Donc, je pense qu'il faut vraiment redonner ces lettres de noblesse à ce mot-là, et saluer l'engagement des jeunes notamment qui se mobilisent là-dessus, parce que si on se moque d'eux, si on dit ça sert à rien ou c'est voilà.
Je pense en fait, quand on en parlait, je me suis dit, je crois que le vrai problème c'est le non-respect des opinions des autres, parce que en fait, je crois que pourquoi des jeunes ont peut-être peur de s'engager, ou même des personnes plus âgées, tu vois, c'est qu'ils ont peur de déplaire. Ils ont peur qu'on ne les aime pas parce qu'ils ont une opinion différente. Mmh. Et ça, je trouve que c'est assez problématique, parce qu'on ne devrait pas juste aimer quelqu'un par rapport à ses opinions. Enfin, tu vois, tu peux apprécier une personne même si t'es pas d'accord avec elle. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un peu ce côté où on a peur de se mouiller parce qu'on a peur de déplaire.
C'est vrai. Je pense que ça un peu toujours été vrai, mais c'est peut-être accentué aujourd'hui par les réseaux sociaux, parce que avant, quand tu t'engageais dans ton environnement immédiat, donc tu t'exposais à des critiques de ton environnement immédiat, voilà, de gens que tu connaissais, etc. Aujourd'hui, quand tu t'engages publiquement, notamment sur les réseaux, tu t'exposes à des critiques de tout le monde, de centaines de milliers de gens, de millions de gens que tu ne connais pas, que tu n'as jamais rencontrés, et qui du coup vont être très violents avec toi parce qu'ils ne te connaissent pas et donc ils n'ont aucune empathie pour toi. C'est pas comme si tu te disputes avec ton voisin parce que vous n'êtes pas d'accord sur un point ou avec un ami. Ça peut être des discussions enflammées qui partent loin parfois, mais au final, vous vous connaissez quand même. Donc le rapport n'est pas le même. Mmh. Ou même au bistrot du village, quand tu retrouves les copains... et que tu débats sur des trucs, tu peux t'engueuler, mais vous faites quand même communauté, vous êtes des voisins, vous êtes des amis, vous êtes des gens qui vous connaissez. Je pense que les réseaux sociaux, ils ont un peu déconnecté, ils nous ont un peu tous connectés et tous déconnectés quelque part. Et du coup, on se retrouve à faire face à des gens très très violents. Et cette violence, je pense, s'explique en partie parce qu'il n'y a aucun contact physique, c'est des gens qu'on ne connaît pas. Et c'est beaucoup plus facile d'être violent, d'être méchant, d'être menaçant avec un inconnu qu'avec votre voisin, votre collègue, votre ami, votre frère. C'est beaucoup plus facile d'être violent avec un inconnu. Et ça explique, je pense, en partie cette haine qui peut se déverser. Donc je comprends que les gens aient peur, notamment sur les réseaux, de s'engager. Après, il y a plein de manières de militer aujourd'hui qui ne sont pas
de l'exposition,
qui sont pas où t'es pas obligé de te mettre sur les réseaux, etc. Hein. Tu peux t'engager dans une association qui lutte sur le terrain pour les animaux, pour l'environnement, sans forcément aller sur Twitter ou Instagram ou Facebook pour défendre ton point de vue. Tu peux aussi t'engager que dans la vraie vie. Voilà. Après, heureusement qu'il y a des gens qui le font aussi sur les réseaux, parce que c'est devenu un lieu de débat et un lieu de société fondamental. Mais voilà, je pense que Faut vraiment pas avoir peur de ça, faut pas avoir peur d'affirmer ses idées, il faut pas avoir peur de dire que la situation est grave et qu'il faut se bouger. Et puis je pense qu'il faut faire aussi attention au discours de dire bon, chacun son opinion. Oui, chacun son opinion, c'est vrai, chacun son opinion, mais on peut pas mettre sur le même plan une opinion qui dit d'un scientifique qui travaille pour le GIEC et qui dit attention, on va dans le mur si on change rien avec le dérèglement climatique, de l'opinion de quelqu'un qui travaille dans l'industrie pétrolière et qui dit « oui, bon, moi, je pense que l'homme n'a rien à voir avec tout ça ». On peut pas dire « bon, bah, chacun son opinion et puis voilà, c'est juste un débat ». Non, à un moment, il faut regarder aussi les faits, il faut regarder le consensus scientifique, il faut regarder ce que disent les spécialistes du climat, de la biodiversité, des écosystèmes depuis des décennies. Et acter que faut peut-être les écouter maintenant, quoi, et qu'on a perdu déjà énormément de temps et qu'il faut absolument maintenant rattraper ce retard, parce que si on se saisit pas de cette situation dans les années qui viennent, bah, les scientifiques le disent, on s'expose à des catastrophes encore plus grandes que celles qu'on va devoir affronter de toute manière.
Qu'est-ce qui t'a sensibilisé aux causes que tu défends aujourd'hui, la cause environnementale, animale?
Il y a plein de choses. Il y a des amis qui étaient beaucoup plus sensibles à ça que moi. Il y a mon grand frère qui m'en a beaucoup parlé. Il y a ma mère quand même qui nous a, ma mère, mes parents qui nous ont quand même qui nous ont transmis des choses, des connaissances, des valeurs sur ces questions-là. Mais je pense que c'est vraiment à travers mon métier. De reporter, en fait, d'aller sur le terrain où j'ai vu de mes yeux des choses auxquelles j'aurais probablement pas cru ou pas voulu croire si je les avais pas vues. Voilà. Où j'ai vu les conséquences de ce qu'on faisait à l'environnement, aux animaux, etc. Et de le voir soi-même, voilà, de le voir moi-même, ça a vraiment été un accélérateur de prise de conscience et ça m'a donné envie, du coup, de transmettre tout ce que je voyais aux gens, quoi. Parce que avant de faire ce métier, je me rendais pas vraiment compte. Voilà, moi, je faisais partie des gens qui mangeaient énormément de viande. Je me posais jamais la question de savoir d'où venait la viande, quelles conséquences ça avait. C'est des trucs qui me passaient complètement au-dessus de la tête, quoi. Et j'étais même plutôt, j'avais même plutôt tendance à me moquer de mes amis qui étaient un peu plus sensibles à cette question. Pour moi, c'était du sentimentalisme, etc. Et en fait, d'être confronté à tout ça, visuellement, physiquement, ça a changé beaucoup de choses, quoi. Voilà. Et je pense qu'on est assez nombreux dans ce cas-là. Alors, pas forcément en allant sur le terrain, mais en voyant des vidéos, en découvrant un peu le travail d'information que font toutes les associations. Et puis aussi grâce aux médias qui, ces dernières années, parlent de plus en plus de ces sujets-là. Et c'est pour ça que pour moi, l'information, c'est vraiment fondamental sur la question de la bataille pour le climat et pour le vivant. C'est que les gens doivent avoir les informations pour prendre les bonnes décisions. On peut pas attendre de gens qui ne sont pas informés qu'ils agissent dans la bonne direction, c'est pas possible. Si vous savez pas ce qui se passe, si vous savez pas précisément comment agir, c'est compliqué d'agir. Donc l'information est vraiment quelque chose de fondamental pour moi. Ouais.
Qu'est-ce qui manque à tes yeux pour qu'on accélère, parce que là on est dans une sorte de on en parle tout en restant assez passif, tu vois, le fait d'en parler pouvait justifier l'inaction.
Alors oui et non, je trouve qu'on est de moins en moins passif quand même. Il y a de plus en plus de gens qui changent leur mode de consommation, ça c'est du très concret. Il y a de plus en plus de gens qui choisissent leur métier en fonction de ces questions-là aussi, ça aussi c'est du concret. Il y a quand même de plus en plus de personnes qui s'engagent dans les associations. Il y a des choses qui bougent, donc on n'est pas passif. Ce qui manque pour que ça accélère, c'est un changement massif de consommation. Il faut qu'on prenne conscience que seul, on ne peut pas grand-chose. Mais si tout le monde change sa consommation, si on est des milliers, des centaines de milliers, des millions à le faire, c'est un impact énorme. Parce que l'industrie, c'est nous. Mmh. Les grandes entreprises, c'est nous.
On crée la...
on achète leurs produits. On achète ce qu'ils fabriquent. Et tant qu'on achètera leurs produits et ce qu'ils fabriquent, tant qu'on achètera des produits qui ont un impact environnemental énorme, ils continueront à les faire, ces produits-là. Donc ça, c'est la première chose, c'est prendre conscience de notre force collective de citoyens, de citoyennes. À travers nos choix d'achat, de consommation, on peut vraiment changer les choses. À travers nos engagements aussi. Le fait de rejoindre une association, c'est pas du tout anodin. Ouais. C'est très important. Le fait de faire un don, si on peut se le permettre, tout le monde peut pas se le permettre, mais pour ceux qui peuvent, de faire un petit don. Pour ceux qui peuvent pas faire de don, mais peut-être qui ont un peu plus de temps, de s'engager dans une asso, de participer à leurs actions, ça permet de renforcer les associations et donc de rééquilibrer le rapport de force entre ces assos et les lobbies qui sont en face et qui essayent de faire en sorte que rien ne bouge. Et puis l'autre chose qui manque pour accélérer, c'est la volonté politique. C'est d'avoir des dirigeants, des gens qui sont au pouvoir, qui osent prendre des décisions radicales, des décisions ambitieuses. Parce que oui, le citoyen, je viens de le dire, a une responsabilité à son niveau individuel, à travers ses choix de consommation et ses engagements, mais on n'a pas la même responsabilité que les gens qui dirigent. Parce que les gens qui dirigent les pays, qui dirigent les grandes entreprises, qui dirigent les grands partis politiques, ils ont juste à appuyer sur un bouton pour prendre des décisions. Ils peuvent le faire. Ils ont les pouvoirs législatifs, les pouvoirs économiques. C'est possible pour eux de prendre des décisions concrètes tout de suite. C'est ce que nous, on ne peut pas faire, simple citoyen. Eux, ils peuvent le faire. Et cette volonté politique, aujourd'hui, clairement, elle fait défaut. Il y a beaucoup de déclarations d'intention. Tous les politiques, ou presque, disent « oui, il faut agir pour le climat, etc. etc. » Le fait est que ceux qui sont au pouvoir, ils ne font pas grand-chose. Certaines choses sont faites. Il ne faut pas dire qu'il n'y a rien qui est fait non plus. Ça serait faux. Mais... clairement pas à la hauteur de ce qu'il faut faire et de ce que les scientifiques préconisent. Là, on parle pas de militants, d'associations, etc. On parle de scientifiques qui disent aux États, aux entreprises, c'est maintenant qu'il faut agir, sinon ce sera trop tard. Et ben, on n'a pas cette volonté politique-là aujourd'hui. Et pour avoir cette volonté politique-là, et ben, c'est aussi à nous, au moment de voter, au moment de faire nos choix, bah, de voter pour des gens qui proposent des vraies choses ambitieuses, quoi. Et pas simplement pour... un programme qui a été peint en vert à la va-vite et pour des gens qui sont en responsabilité et puis qui font pas grand chose. Donc je dis pas de voter pour un parti en particulier, hein, mais en tout cas de se poser cette question au moment de mettre les gens au pouvoir: qu'est-ce que vous allez faire concrètement pour le climat et pour la biodiversité? Et je pense qu'il manque de courage. Voilà.
Totalement.
Voilà, il manque
Hugo,
le sommet des États manque de courage. Il faut avoir le courage de prendre des décisions qui seront pas forcément populaires au moment où on les prendra. Il faut avoir le courage d'affronter des lobbies qui sont très puissants, très menaçants et qui peuvent nuire à votre future carrière politique. Mais je pense que c'est la responsabilité historique des gens qui sont au pouvoir aujourd'hui et qui le seront dans les prochaines années de faire ça, parce que sinon, on en payera tous le prix.
Bah, c'est sûr que à la base, la politique, c'est quand même l'envie de faire bouger les choses et de servir le peuple. Et aujourd'hui, c'est le meilleur moyen de le servir. J'anticipe la question qu'on aura forcément dans les commentaires. Pourquoi est-ce que toi, tu t'es pas dit que c'était peut-être là où du coup, il fallait que t'agisses en politique, parce que tu pourrais appuyer sur ce bouton?
Alors, parce que je pense que c'est pas le seul moyen d'agir. Je pense qu'il y a plein d'autres manières d'agir en dehors du monde du jeu politique, en tout cas. Comme je le disais, je pense que l'information, ça, c'est un des piliers de l'action. On a besoin que tout le monde sache ce qui se passe et que tout le monde sache comment agir. Et ça, c'est vraiment un truc crucial. Donc, j'ai l'impression aujourd'hui, moi, à mon niveau, avec mes compétences, avec ce que je sais faire, d'être plus utile en tant que journaliste, en tant que présentateur d'une émission, enquêteur sur des sujets environnementaux, en tant que passeur d'informations vers le grand public. J'ai l'impression d'être plus utile comme ça qu'en m'engageant en politique et en étant un énième candidat dans le jeu politique. Peut-être qu'un jour je le ferai, hein, peut-être que je m'engagerai un jour en politique, j'en sais rien, il faut jamais dire jamais, parce que en général les gens qui disent jamais, après on leur ressort l'archive quelques années plus tard, ils ont l'air de cons. mais en tout cas aujourd'hui, voilà, c'est pas là que je me sens le plus utile. Après, j'encourage vraiment le plus de jeunes possible à s'engager en politique, à pas hésiter à militer.
Pour les bonnes raisons, ça manque.
Et on peut s'engager en s'engageant en politique, mais on peut aussi s'engager, et je pense même que c'est au moins aussi efficace, voire plus, dans des associations qui font de l'action concrète sur le terrain et qui obtiennent des résultats concrets. Et là, on est vraiment dans le concret, quoi. On n'est pas dans le militantisme purement politique. Donc, vraiment, la clé, c'est l'engagement. Il faut y aller, il ne faut pas hésiter. C'est maintenant que ça se passe. Et je pense que, honnêtement, je suis assez optimiste quand je vois les plus jeunes, les générations en dessous de moi et ma génération même. Je suis assez optimiste quand je vois le niveau d'engagement des gens et quand je vois l'énergie que tous ces jeunes ont pour essayer de changer les choses. Je pense qu'on va y arriver. Ça ne va pas être facile, mais on va, j'espère, éviter le pire. Voilà, on va éviter la catastrophe qui serait que tout simplement cette planète soit plus habitable pour nous dans de nombreuses régions.
Qu'est-ce que je dirais aux personnes qui préfèrent fermer les yeux ? Parce que je pense qu'il y en a encore beaucoup, tu vois, qui en ont conscience, mais par une espèce d'angoisse ou de facilité, tu vois, préfèrent se dire « bon, de toute façon, je serai morte quand ça arrivera ». Parce qu'il y en a qui se le disent.
Je leur jette pas la pierre parce que je pense que c'est un réflexe normal et franchement, je peux comprendre que ceux qui ont 20 ans aujourd'hui, ça les saoule de devoir assumer et réparer les erreurs de plein de générations avant eux, qui eux ont vécu leur belle vie, qui ont vécu sans compter, et maintenant c'est aux plus jeunes d'assumer et de faire attention pour tout le monde en fait. Donc je peux comprendre le côté c'est bon, je veux pas y penser, je veux vivre ma vie. Je peux le comprendre, c'est vraiment humain. Après, le truc, c'est que de toute manière, cette situation, elle s'impose à nous. Et elle va s'imposer à nous. On a beau se dire, moi, je m'en fous, je veux pas savoir, je veux vivre ma vie. C'est peut-être encore possible de se le dire aujourd'hui en France, mais ça va l'être de moins en moins. Les scientifiques le disent, hein, les phénomènes météo extrêmes vont se multiplier, c'est déjà le cas. On va vivre dans un monde de plus en plus hostile, où les conflits vont être de plus en plus nombreux, où les pandémies aussi vont se multiplier, selon les experts. Donc, on peut pas fermer les yeux. On ne pourra pas en tout cas les fermer très longtemps. Et puis je pense qu'il faut aussi remettre de la joie et du bonheur dans l'engagement, dans le fait de faire quelque chose qui a du sens. En fait, c'est cool, c'est joyeux de rejoindre des associations. C'est des super moments, c'est des super rencontres, c'est des nouvelles amitiés, c'est le sentiment d'être utile. Et il n'y a rien de plus jouissif et de plus générateur de bonheur que le sentiment d'être utile et de faire un truc bien et pour le bien commun. Et je pense que ça doit être le moteur. Faut pas que ce soit triste, l'engagement écologique. Faut pas que s'engager dans des assos, militer ou défendre des choses, ça soit vu comme quelque chose de triste, de chiant, de oh là là, on va
de déprimant, de déprimant.
Voilà, c'est l'inverse, quoi. Et moi, tous les gens que je rencontre dans ces associations, tous les jeunes que je rencontre qui s'engagent, c'est des jeunes heureux, qui pétillent, qui sont pleins d'énergie. Et c'est aussi dans l'espoir que c'est aussi dans l'action que réside l'espoir. C'est dans le fait de faire quelque chose qu'on va retrouver de l'espoir. Parce que même si ça marche pas, allez au pire, voilà, ça marche pas, au moins on aura fait quelque chose, on sera pas resté impuissant, les bras croisés. Et ça, c'est vraiment fondamental. Et je pense qu'il faut redonner, remettre de la joie dans tout ça, quoi. Et c'est pas triste, la défense de l'environnement. Au contraire, ça donne l'impression d'avoir une prise sur les choses et de faire quelque chose à son échelle. Parce que le vrai truc qui rend triste, c'est l'impuissance.
Ouais.
C'est le sentiment d'être condamné à une situation qui va tous nous dépasser et sur laquelle on ne peut rien faire. Et ça, c'est faux. On peut faire quelque chose. Il y a des choses qu'on ne pourra pas éviter. Hein. Faut pas se mentir. Il y a des choses pour lesquelles c'est probablement déjà trop tard. Les glaciers de montagne, on peut faire ce qu'on veut. On est à peu près sûr qu'ils vont disparaître. Certaines espèces, malheureusement, elles vont disparaître. Donc, faut pas prétendre tout sauver. Mais ce qu'on peut faire et ce que nous disent les scientifiques, c'est qu'on peut limiter les dégâts. On peut faire en sorte que ce qui va nous arriver dessus soit supportable, ou en tout cas qu'on puisse s'y adapter. Mais si on fait rien, le risque, c'est qu'on puisse pas s'adapter à ce qui va arriver. Et là, notre vie, ça sera vraiment plus la même.
Bon, heureusement, tu montres bien, je trouve, que l'engagement n'est pas déprimant et que non seulement c'est utile, mais qu'en plus c'est générateur de changement.
Ouais.
Donc pour ça, merci. J'ai deux petites dernières questions pour toi, Hugo.
Ouais.
Est-ce qu'il y a une ressource que tu as envie de nous partager? Ça peut être lié à l'environnement ou pas, hein, mais que ce soit un livre, un film, une musique même, qui t'a marqué et que tu aurais envie de recommander aux personnes qui nous écoutent.
Bah moi, il y a un livre qui m'a vraiment marqué, qui est à la source de ma conversion au végétarisme, on va dire. Alors, je veux pas convaincre tout le monde de devenir végétarien, hein, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est un livre, je pense, qui doit être lu parce qu'il y a énormément d'informations dessus et ça permet de savoir ce qui se passe dans les élevages et de se rendre compte de l'impact de tout ça. C'est « Faut-il manger les animaux ?» de Safran Foer, qui est le livre qui m'a le plus marqué. Donc, s'il y avait qu'un livre, ce serait ça. Et après, je pense que non, j'y arrive. Enfin, j'en ai des milliers, mais on n'a pas le temps. Donc, si je dois retenir qu'un livre, c'est celui-ci. C'est Faut-il manger les animaux de Safran Foer. Et évidemment, ça concerne la question des animaux, mais il y a plein d'autres bouquins absolument indispensables, édifiants sur d'autres questions que vous trouverez. Et je pense que les gens trouveront.
Ouais. Puis il y a les tiens que j'ajouterai aussi dans la barre de description. Bah, ouais,
je vais pas dire. Ça ferait très égocentrique de dire. Écoutez, s'il y a un livre à retenir, c'est le mien. Voilà, allez l'acheter.
Donc, c'est pour ça que je le dis.
voilà, ça fait partie des livres qui peuvent être lus. Bien sûr, je vais pas dire le contraire, mais s'il y en a un à retenir, ça serait pas le mien. J'aurais pas cette prétention-là. Mais moi ce que Si je dois conclure, c'est par un message d'espoir, parce que je le vois autour de moi. Je vois les gens changer. Moi-même, je change. Il y a des pratiques qui me paraissaient évidentes il y a quelques années que je ne fais plus aujourd'hui. Alexandra, ma femme, elle fait changer aussi plein de choses qui lui paraissaient encore invraisemblables il y a quelques années. Elle s'engage de plus en plus et elle y trouve beaucoup de plaisir aussi à s'engager dans toutes ces questions-là. J'ai des amis qui se moquaient encore il y a quelques années de moi quand je leur disais que je mangeais pas de viande, qui aujourd'hui sont devenus encore plus végétariens que moi, même vegan pour certains. Et en fait tout le monde peut changer et je pense que c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant, il n'y a que des gens qui peuvent changer et il faut jamais baisser les bras de voir les gens changer et parfois les gens ne se rendent pas compte qu'ils font des choses qui ont un impact ou qui sont pas bonnes ou qui ne peuvent pas se perpétuer. Je pense qu'on a tous et toutes à un moment été dans cette situation, donc il faut être dans la bienveillance, il faut informer, il faut expliquer, il faut garder son calme, faut être dans l'inclusion de tout le monde dans cette lutte-là et pas essayer de chercher qui est le plus pur, qui est le plus écolo, qui est... Parce que souvent, il y a un peu cet écueil-là, quelqu'un qui va s'engager sur une question va lui dire « Oui, alors toi, tu t'es zéro déchet, mais par contre, tu prends l'avion. » Et on va toujours essayer de rabaisser les gens en cherchant ce qui ne va pas chez eux. Au contraire, essayons de valoriser les bonnes actions, de valoriser ce que les gens font, et pas de leur chercher des poux dans la tête sur chaque truc qui va pas. Et c'est en valorisant toutes les bonnes actions qu'on va en faire de plus en plus et qu'on va se mettre tous ensemble. Et voilà, ça veut pas dire qu'il faut pas dénoncer les scandales environnementaux, qu'il faut pas dénoncer ce qui va pas. Mais toujours dans la bienveillance vis-à-vis des citoyens, quoi. Voilà.
C'est un très beau message d'espoir, mais j'avais une dernière question pour
toi.
Non mais c'est génial comme ça, t'as pu faire le petit message d'espoir. C'est la question signature du podcast. Ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie?
Prendre le pouvoir de sa vie. Ça signifie d'être content le matin quand tu te lèves et d'être content le soir quand tu te couches. Voilà. Ça ne veut pas dire que tu seras content tous les jours. Il y a forcément des jours qui seront difficiles. Mais globalement, qu'à la fin de ta vie, quand tu regardes dans le rétroviseur, tu te dis « ça valait le coup ».
Super, straight to the point. Génial, bah merci beaucoup Hugo.
Merci
d'être venu sur InPower.
Avec plaisir.
Pour te retrouver tes émissions, tu veux qu'on redirige les auditeurs et les auditrices sur ton Insta?
Ils se redirigeront où ils voudront se rediriger, il n'y a pas de souci.
Trop cool, bah merci beaucoup Hugo.
Ça marche, allez, bonne soirée.
Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout et pour cela je vous dis un grand merci. C'est peut-être que l'épisode vous a plu, et si c'est le cas, ça nous fait toujours très plaisir de voir vos stories en train d'écouter le podcast. Vous pouvez nous taguer @hugoclementka et @mybetterself pour que l'on puisse le voir et interagir avec vous. C'est aussi en le conseillant autour de vous et en laissant 5 étoiles sur Apple Podcasts que vous permettez au podcast de grandir, et n'hésitez pas à y laisser quelques lignes nous disant ce que vous avez apprécié dans cet épisode, mais aussi ce que l'on pourrait améliorer. Cet épisode est déjà fini, mais heureusement, il y en a beaucoup d'autres disponibles sur InPower. Plus de 160 sont déjà sortis et ils sont disponibles directement sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. Je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.